J'aimerais revenir très rapidement sur un certain nombre de causes de cette croisade. Si nous l'avons vu la dernière fois, la croisade part de l'intensification de la notion de pèlerinage à partir du Moyen-Âge. Il y a différents centres de pèlerinage, dont le principal, nous l'avons vu dans l'Europe de médiévale et Saint-Jacques de Compostelle, Rome. Mais il est bien évident que, de loin, le pèlerinage le plus prisé est le pèlerinage au Saint-Sépulcre à Jérusalem, le Saint-Sépulcre étant la relique des reliques. La relique, c'est évidemment, comme nous l'avons vu, un objet qui a appartenu à un saint ou à un personnage important et qui est donc imprégné, si j'ose dire, d'une puissance spirituelle, d'un rayonnement spirituel qui fait que ceux qui viennent en contact physique avec cet objet-là bénéficient de la puissance spirituelle qui l'irradie. En gros, voilà comment on peut définir une relique. Mais outre l'intérêt pour le pèlerinage, il y a des raisons qui ne sont pas directement religieuses. D'abord, il y a l'essor démographique de l'Occident. Et notamment, dans les familles seigneuriales, ce sont souvent des familles importantes. Et les cadets, les plus jeunes enfants de la famille, n'ont pas toujours de quoi avoir une part d'héritage importante. Et les envoyer à la croisade est un moyen pour leur faire obtenir là-bas les grandes seigneuries qui leur manqueraient autrement. Ceci étant dit, je crois qu'il ne faut pas non plus trop insister sur ce point-là. Les historiens modernes, souvent anti-religieux, ont surtout mis en avant depuis un certain temps les causes non religieuses de la croisade. En fait, il ne faut quand même pas oublier que la motivation essentielle de la croisade était quand même d'origine religieuse, même si c'était une origine discutable, si nous allons le voir, mais en tout cas, c'était une motivation religieuse. La deuxième question qu'il nous faut nous poser est celle-ci. La croisade était-elle une guerre sainte ? La guerre sainte, c'est une notion qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament en ce qui concerne un certain nombre de guerres d'Israël. La guerre sainte dans l'Ancien Testament, c'est une guerre qui concerne la survie du peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël est menacé dans son existence et dans sa survie, alors les envoyés de Dieu proclament la guerre sainte. Bon, donc déjà, nous voyons ici un point très important, c'est que dans l'Ancien Testament, la guerre sainte est une guerre uniquement défensive. Et il n'y a pas de guerre sainte offensive dans l'Ancien Testament. Bon, cette guerre sainte est qualifiée de sainte pour la raison suivante, c'est que l'Éternel marche devant les armées d'Israël, et par conséquent, la certitude de la victoire est totale. Dieu a livré entre les mains d'Israël ses ennemis. C'est déjà fait, avant même que le combat ne s'engage. Les combattants doivent obéir alors à un certain nombre de règles. Par exemple, bon, c'était minutieusement décrit dans le Deutéronome. Si quelqu'un vient d'acheter une vigne, un champ, si quelqu'un vient de se marier, si, etc. Bon, tous ces gens-là sont envoyés de l'armée. Puis ensuite, ceux qui ont peur. Pourquoi ? Parce que celui qui a peur n'a pas la foi. Et la guerre sainte est une guerre de foi. Dieu a livré entre les mains d'Israël ses ennemis. Donc, celui qui ne croit pas cela, celui qui a peur, il va être une pierre d'achoppement pour ses camarades. Il est renvoyé. L'Arche de l'Alliance intervient dans le combat. Enfin, bon, un certain nombre de choses. Maintenant, la guerre sainte n'existe plus après la période de l'Ancien Testament. C'est une notion qui disparaît dans la théologie d'Israël, si on peut dire. Par contre, nous avons dans l'islam, nous l'avons vu, la notion de guerre sainte, la djihad. Or, la djihad, c'est quelque chose de bien différent de la guerre sainte telle qu'on la définit dans l'Ancien Testament. La djihad islamique est une guerre offensive, au contraire. C'est une guerre pour la propagation de la foi islamique. Le règne de l'islam, dit le Coran, se répand par le glaive. Donc ici, nous sommes dans une notion différente. Entre ces deux notions se situe la croisade. La croisade est-elle la vision du djihad islamique christianisé ? Bien évident que la notion de croisade, de guerre contre les infidèles, de guerre religieuse, parce que la croisade est une guerre religieuse, pour le moins. La notion de guerre religieuse n'est pas une notion biblique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, certains historiens ont pensé que c'était une notion islamique qui avait été adoptée par le christianisme médiéval et christianisée. En fait, nous allons voir que ce n'est pas si simple que ça. Dans la chrétienté médiévale, depuis saint Augustin, existe la notion de guerre juste. Saint Augustin est celui qui a défini les critères de la guerre juste. Et pour saint Augustin, il faut trois conditions pour qu'une guerre puisse être qualifiée de juste. Premièrement, il faut qu'elle soit déclarée par l'autorité légitime. Deuxièmement, avoir pour but de repousser un assaillant, donc guerre défensive, ou de réparer un tort. Et enfin, troisième point, procéder d'une intention droite. Bon, ça c'est quand même assez vague, ça laisse le champ ouvert à pas mal d'interprétations. Et un certain nombre, bien entendu, toutes les guerres du Moyen-Âge se réclamaient de cette notion de guerre juste, même quand, en général, elle ne l'était pas. Grégoire le Grand, le pape, avait déjà envisagé la possibilité d'une guerre missionnaire, d'une guerre pour la propagation de la foi chrétienne. Et l'on sait que Charlemagne a usé et abusé de cette manière de propager le christianisme qui n'avait rien à envier au djihad islamique. Néanmoins, les guerres de Charlemagne n'étaient pas reconnues comme des guerres légitimes, en tout cas avec cet objet-là, par la théologie catholique de l'époque. Si vous voulez, c'était une guerre sainte qui ne disait pas son nom. En tout cas, il est certain que le principe existait. Et c'est au nom de ce principe qu'un certain nombre de guerres missionnaires ont été sérieusement envisagées par la papauté au Moyen-Âge. Et c'est précisément pour préparer cette guerre missionnaire que la papauté a élaboré l'idéal chevaleresque. La guerre sainte ne peut pas être menée n'importe comment, mais il y a des règles de respect de l'adversaire, de miséricorde, etc., qui doivent être appliquées. La réforme grégorienne a récupéré pour son compte la notion romaine du jus gladi, le droit de glaive. Si, en effet, la papauté est l'autorité suprême, la papauté doit donc avoir le moyen de contraindre les récalcitrants à l'ordre qu'elle veut instaurer et par conséquent d'employer pour ce faire la force. Et on parlait avec la réforme grégorienne, la réforme de Cluny, il y avait des notions comme « militia Christi », les armées du Christ, et même « militia sancti petri », les armées de Saint-Pierre. Et alors, au nom de cette doctrine, l'Église pouvait ordonner au pouvoir séculier de châtier les assassins, les schismatiques et les hérétiques. Et de cette notion va découler l'Inquisition. Inquisition à la fin du siècle suivant, fin du XIIe siècle. Et c'est pourquoi ici, tout ça, c'est un ensemble qui est lié. La croisade, c'est l'application de cette doctrine. Et en même temps, les prolongements de la croisade, allons voir, contre l'hérésie cathare, croisade des Albigeois, l'Inquisition, et finalement, la répression qui suivra la réforme, la contre-réforme, etc., découle de cette notion. De cette notion du pouvoir de l'Église d'ordonner au pouvoir temporel d'intervenir contre les ennemis du Christ. Ce n'est pas l'Église elle-même qui intervient contre eux, mais elle utilise pour ce faire le bras séculier, c'est-à-dire les pouvoirs politiques. Selon Hildebrand, Grégoire VII, tous ceux qui refusent l'autorité du pape, qui a reçu, comme on le sait, la plénitude de tous les pouvoirs sur la terre, tous ceux qui refusent l'autorité du pape, donc, doivent être exterminés, ni plus ni moins. Et voilà, ça c'était au moins expéditif. Ensuite, pour ce qui concerne la croisade, il y a l'idée que le pape est l'héritier de l'empereur romain. Or, la Terre Sainte était une possession romaine, une possession de l'Empire romain. Par conséquent, reprendre la Terre Sainte, ce n'est rien d'autre que de récupérer un droit. Et la croisade apparaît donc alors non pas comme une guerre sainte, au sens du djihad, mais comme une guerre licite au sens que lui donnait saint Augustin. Mais ceci étant dit, c'est aussi une guerre religieuse. Seulement, à l'inverse du djihad, et c'est en cela que ce n'est pas une guerre sainte, le but, la finalité de la croisade n'est pas missionnaire. Le but n'est pas de convertir les infidèles, mais de réparer un tort que ces infidèles ont commis en s'emparant d'une terre qui ne leur appartient pas. La Terre Sainte est la Terre Sainte des chrétiens. Et elle est la Terre Sainte des chrétiens essentiellement parce que elle est la terre au sein de laquelle se trouve le Saint-Sépulcre. Et là, il nous faut parler du Saint-Sépulcre. Nous avons vu que le Saint-Sépulcre était le but de tous les pèlerins. Faire le pèlerinage au lieu saint, mettre ses pas sur ceux du Christ, comme on disait à cette époque-là, comme certains disent encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est acquérir des mérites immenses. Nous l'avons vu, un criminel peut se voir remettre toute sa peine temporelle s'il accepte de faire le pèlerinage en Terre Sainte. D'ailleurs, en général, il a peu de chances d'en revenir vivant, ce qui joint l'utile à l'agréable. Mais enfin, si il est assez malin pour éviter toutes les embûches du voyage, et s'il revient vivant, il ne sera plus embêté. Il est totalement pardonné. En 1009, un nouveau pouvoir apparaît dans le monde musulman, nous l'avons vu, et notamment au Caire, qui est le califat fatimide avec un pouvoir chiite. Un nouveau calife monte sur le trône du Caire, qui se nomme le calife Hakim. Il est fou, il se prend pour Dieu, ni plus ni moins. Et il a une vision syncrétiste. Non seulement il veut détruire le sunnisme, mais en même temps, il veut unifier toutes les religions. Et un de ses premiers devoirs, c'est de raser totalement le Saint-Sépulcre. Évidemment, ça va être une des causes immédiates de la croisade. L'émotion va être énorme. Quant aux pèlerins qui persistent malgré tout à les prier sur le Saint-Sépulcre, ils sont impitoyablement massacrés. Et lorsque la nouvelle en arrive en Occident, évidemment, on considère que là, il y a une coupe qui déborde, la mesure est pleine, et qu'il y a maintenant une situation qui est devenue intolérable. Heureusement, l'intolérance du calife dure peu de temps. D'ailleurs, le calife se rend tellement impopulaire qu'il ne tarde pas à être assassiné, ce qui résout le problème. Et 20 ans après, commencent les grands pèlerinages dont nous avons parlé ensemble la dernière fois, pèlerinages en Terre Sainte de plusieurs milliers de personnes. C'est à cette époque, par exemple, que l'évêque de Cambrai prend la tête d'un pèlerinage qui groupe 3000 pèlerins. Bien entendu, une foule aussi importante de pèlerins implique qu'il y ait un minimum d'armement, de sécurité. Et les grands pèlerinages du début du Xe, du XIe siècle sont des pèlerinages armés. Il y aura des pèlerinages encore plus importants que ceux de l'évêque de Cambrai, et les chroniques de l'époque font mention de groupes de pèlerins qui allaient jusqu'à au maximum 7000 pèlerins ensemble. Donc c'est déjà une petite armée. En 1048, le Saint-Sépulcre détruit et reconstruit. Néanmoins, il est reconstruit d'une manière beaucoup plus modeste qu'il ne l'était auparavant. Ce n'est qu'une petite rotonde qui recouvre l'emplacement du sépulcre proprement dit, et tout le reste de tout le bric-à-brac reliquaire qui tourne autour du Saint-Sépulcre est à ciel ouvert. Et c'est cette structure que les croisés en 1099, quand ils vont arriver à Jérusalem, vont trouver. Alors ils vont reconstruire, quand ils auront pris Jérusalem, ils vont reconstruire alors des bâtiments beaucoup plus importants pour recouvrir toutes les autres reliques qui se trouvent autour du Saint-Sépulcre, car les reliques là-bas, évidemment, ça pullule. Et pas des moindres, croyez-moi. Là, vraiment, c'est certain que les pèlerins qui vont là-bas, eh bien, ils sont gâtés. Ils en ont pour leur argent. Ça, c'est certain. Jugez-en. On commence par leur montrer le lieu de la sépulture d'Adam et d'Ève, qui est le centre du monde. On leur montre ensuite l'endroit où a eu lieu l'onction de David. C'est à côté du Saint-Sépulcre. L'anneau qui a été mis au doigt de Salomon le jour où il a été intronisé roi d'Israël. La coupe qui a servi à Jésus pour prendre la dernière Sainte Cène. Le roseau et l'éponge. Le roseau, on avait mis l'éponge pour lui apporter du vinaigre. Et last but not least, la lance de la passion, la lance qui a percé son côté. Puis vient le chemin de croix. Et alors, successivement, on montre la prison dans laquelle Jésus a été emprisonné, le lieu de la flagellation, celui du couronnement d'épines, l'endroit où les vêtements de Jésus ont été partagés, l'endroit où la Vierge a défailli quand elle a vu la croix, l'endroit où Véronique a essuyer le visage de Jésus, vous savez, avec le linge sur lequel le visage de Jésus est resté imprimé, si bien qu'ensuite on s'arrachait ça évidemment à prix d'or, en Europe du Moyen-Âge, si bien que le linge qui avait servi à Véronique pour essuyer le visage de Jésus faisait des kilomètres de long. L'endroit où Jésus a recommandé, où se tenait Marie quand Jésus a recommandé Marie à Jean, vous savez, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. La pierre sur laquelle le cadavre de Jésus a été enseveli, la pierre roulée par les anges, et l'endroit où Jésus ressuscité est apparu à Marie-Madeleine. Voilà, il y a tout ça. Alors, vous comprenez qu'on était gâtés. Bien sûr, nous l'avons dit tout à l'heure, pour avoir accès à tous ces trésors, ce n'était pas une mince affaire, le voyage était périlleux. Mais si par hasard on mourait dans l'aventure, eh bien, on était assuré d'aller au ciel tout droit. Et quel plus grand honneur, quel plus grand privilège que d'être enterré à Jérusalem auprès des lieux saints. Et nombreux étaient les pèlerins qui partaient avec le secret espoir et le secret désir de mourir sur place et d'être enterrés là-bas, le plus près possible du Saint-Sépulcre. Et c'est ce qui explique aussi les actes de bravoure des croisés. Les croisés ne craignent pas la mort, ils ont fait le sacrifice de leur vie. Et bien sûr, ici, nous sommes dans un mélange de foi et de superstition incroyable, dans laquelle la part de la superstition est certainement plus grande que celle de la foi. Mais ces croisés, ils y croient. Il n'y a pas de problème, ils y croient. Et nombreux sont ceux qui partent là-bas, effectivement, pour mourir en Terre Sainte. Pour ceux qui en reviennent, car on en revient quand même, tout le monde n'y meurt pas, on ramène des eulogies, c'est-à-dire des objets fabriqués sur place par les artisans locaux, et du fait qu'ils ont été fabriqués sur place, ce n'est pas simplement des simples souvenirs, mais ils ramènent aussi avec eux quelque chose de la puissance spirituelle du lieu saint. Et c'est ainsi qu'à partir de cette époque-là, le XIe siècle, ce que les pèlerins ramènent le plus souvent de Terre Sainte, c'est une boîte à hosties en forme de Saint-Sépulcre. Car on considère que le Saint-Sépulcre a été le premier reliquaire, puisqu'il a contenu en son sein la relique la plus importante qui soit, celle du cadavre du Christ. Et par conséquent, le ciboire est l'endroit où se tient l'hostie, donc la présence réelle du Christ, du Saint-Sacrement. C'est normal qu'on lui donne la forme du Saint-Sépulcre. Pour pouvoir lancer la croisade, le pape a publié une amnistie générale. Les prisons sont vidées et tous les schnappants, les brigands, les bandits de grand chemin de tous ordres vont devenir le fer de lance de la croisade pour aller expier en Terre Sainte leurs péchés et recevoir ainsi l'absolution. Le pape a promis que tous ceux qui partiraient et qui mourraient là-bas seraient pardonnés de leurs péchés, quels qu'ils soient. Alors, en même temps, les seigneurs européens sont bien contents de se débarrasser de toute leur racaille pour que ces gens-là aillent se purifier en Terre Sainte et en même temps purifier aussi leurs états, leur présence. Bon, c'est l'époque où, en plus de ça, l'islam redevient un problème. L'islam, à cette époque, recouvre à peu près plus de la moitié de l'ancien territoire de l'Empire romain. Et à la fin du Xe siècle, l'islam avait repris sa marche victorieuse et conquérante. Par exemple, en 969, Antioche avait été conquis. Et puis alors, en 1055, un nouveau facteur était intervenu. C'était, comme l'avons vu, l'arrivée d'une peuplade nouvelle, les Turcs Seljoucides, dont le chef Toghoul Beg s'était imposé au sultan de Bagdad comme vizir ou comme vicaire. Le 15 août 1071, l'empereur de Byzance avait été défait par ce même Toghoul Beg en essayant de lui reprendre l'Arménie. La défaite, la rencontre avait lieu près du lac de Van, enfin, Van, V-A-N, pas, hein. Conséquence, les deux tiers de l'Arménie, c'est-à-dire de l'Asie mineure, de l'actuelle Turquie, étaient tombés entre les mains des Turcs. En même temps, c'était très grave parce que ça voulait dire que l'Empire byzantin avait presque perdu l'ensemble de ses possessions asiatiques. Et en 1078, la ville de Nicée, qui était juste en face de Constantinople, la capitale, tombait entre les mains des Turcs. Et alors, 3 ans plus tard, en 1081, l'Empire turc naît en tant que tel. En 1071, les Turcs enlèvent Jérusalem aux Égyptiens. Et en Occident, on se met à craindre, avec raison, une nouvelle poussée de l'islam, car Constantinople lui-même est menacée. Et le concile de Clermont, qui va avoir lieu en 1095, aura aussi, entre autres buts, celui de donner un coup d'arrêt à l'expansion de l'islam. Bien sûr, la chrétienté orientale est schismatique depuis 1054, comme nous l'avons vu. Mais enfin, la solidarité, le réflexe de solidarité des chrétiens en face du péril commun surmonte les rancœurs qui ont découlé de ce fameux schisme. Et le pape pense qu'on ne peut pas laisser les Byzantins sans intervenir. Et c'est à ce moment-là que le sultan Meler Shah meurt et son empire est partagé. Son empire est partagé entre ses fils qui vont commencer à se quereller entre eux, ce qui va faire l'affaire des croisés. Car la croisade va tomber sur un islam divisé. Si la croisade avait eu lieu du vivant de Meler Shah, il est peu probable qu'elle aurait abouti. Mais maintenant, puisque l'islam est divisé, eh bien, les chances de succès de la croisade sont beaucoup plus importantes. Et Urbain II, qui est un fin diplomate, a pesé et sous-pesé avec beaucoup de soin tous ces différents facteurs. Et c'est après avoir mûrement réfléchi qu'il a pris la décision de prêcher, nous l'avons vu, la croisade au concile de Clermont. Grégoire VII, qui avait précédé Urbain, avait déjà envisagé la croisade. Il avait même rêvé d'en prendre la tête. Il mourra avant d'avoir pu réaliser son projet. Mais Urbain II a des projets encore plus vastes. Il veut parachever l'œuvre de Grégoire VII et faire de la papauté le pouvoir suprême en Occident. Faire du pape le chef absolu de toute la chrétienté, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan temporel. Et pour cela, il pense que le mieux, c'est de lancer l'Occident dans une guerre extérieure contre l'Orient, de façon à unifier tout l'Occident dans une guerre commune. Il y a aussi le fait que les pirates barbaresques infestent la Méditerranée. Les raids des barbaresques deviennent un réel problème pour tous les pays riverains de la Méditerranée. Pour l'heure, nous l'avons vu, l'islam est divisé. Il y a trois États turcs dans le nord de l'Empire et dans le sud. Tout le sud de l'Empire est entre les mains des califes fatimides d'Égypte. En 1081, l'empereur byzantin, qui se nomme à l'époque Alexis Comnène, décide de reprendre la lutte contre un islam qui commence à s'essouffler, et pour cela, il embauche des mercenaires anglo-saxons. Il va même jusqu'à faire appel au pape. Et la réponse du pape viendra en 1095 par le concile de Clermont. Il pense que s'il aboutit à son projet, l'unité de toute la chrétienté se fera. Donc le concile de Clermont s'ouvre du 18 au 28 novembre 1095 pendant 10 jours. Et c'est le 27 novembre, c'est-à-dire la veille de la clôture du concile, que comme une bombe, Urbain prêche la croisade. Il prêche sur le thème « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. » Nous avons vu la réponse, qui est un délire d'enthousiasme parmi la population rassemblée. Et le pape fixe le départ de la croisade au 15 août 1096, 15 août évidemment, la fête de la Vierge, et rendez-vous est donné à Constantinople, en échange de l'absolution et de l'indulgence. Et la notion de l'indulgence reçoit sa consécration avec la croisade au concile de Clermont. Et là aussi, nous voyons qu'il y a une relation entre la croisade et la réforme. La réforme sera une conséquence lointaine de la croisade. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le relais de l'appel de Clermont est pris par Pierre l'Ermite, un moine qui a déjà visité Israël. Pierre l'ermite, c'était un personnage pittoresque et haut en couleur. Il avait fait un vœu d'ascétisme, au nom duquel il avait promis qu'il ne se laverait jamais et qu'il ne changerait jamais de vêtements. Si bien qu'il dégageait une odeur forte. Les chroniqueurs de l'époque disent qu'il avait une parole éloquente, mais que quand on avait senti une fois dans sa vie l'odeur de Pierre l'ermite, on ne l'oubliait jamais. Donc, il va de lieu en lieu prêchant la croisade, alors que le pape a confié la direction de la croisade qu'il ne peut lui-même diriger à l'évêque du Puy, à Démare de Monteil, plus à un certain nombre de barons qu'il a choisi de trier sur le volet pour différentes raisons. Ce sont des gens qui ont combattu en Espagne, tels par exemple Raymond de Toulouse, son confident, auquel le pape s'est le premier ouvert de ses projets et il a reçu l'appui de Raymond de Toulouse. Raymond de Toulouse a l'expérience des combats contre les musulmans puisqu'il a combattu en Espagne, qui est tout proche de ses états. Rejoignent aussi la croisade les Normands des deux Siciles, Bohémond et son fils Tancrède, qui ont aussi eu maille à partir avec les Arabes, puisqu'ils ont conquis les deux Siciles de haute lutte sur ces derniers quelques dizaines d'années auparavant. Ils ont l'expérience des barbaresques. Rejoignent la croisade également les villes maritimes et portuaires de Pise, de Gênes et de Venise, habituées à combattre les barbaresques dont on a besoin pour assumer la logistique de l'expédition. Et puis, le duc de Brabant, Godefroy de Bouillon et son neveu Baudouin de Boulogne. Au total, ce sont 4 armées qui vont converger de différents endroits de l'Europe pour se mettre en marche vers Constantinople pour être présents au rendez-vous que le pape leur a assigné. En fait, la croisade vient à point nommé pour effectivement sauver l'Empire byzantin qui va survivre, qui va avoir un sursis de 3 siècles. Pendant ce temps, Pierre l'ermite, de son côté, n'est pas resté inactif et dans les vallées du Rhin, il rassemble une immense armée de 15 000 personnes, 15 000 pèlerins armés, ce qu'on appelle la croisade des pauvres gens, qui se met en marche directement, sans aucune préparation, vers Constantinople. 2 de ces armées seulement arriveront à destination. Le reste va s'égayer un peu partout où ils vont passer, massacrant, pillant, etc., etc. Et notamment, les massacres principaux vont avoir lieu à l'encontre des Juifs dans la vallée du Rhin. Et les massacres des Juifs perpétrés par la croisade des pauvres gens vont être un tournant important dans les relations entre Juifs et chrétiens. Car les relations entre Juifs et chrétiens ne s'en remettront jamais jusque maintenant. Les relations entre Juifs et chrétiens n'étaient pas idéales pendant tout le Moyen-Âge, loin s'en faut. Selon la doctrine officielle de l'Église, les Juifs devaient être des gens qui devaient être humiliés, être des citoyens de seconde zone pour montrer la vérité du christianisme. Mais ils avaient des droits, ils étaient respectés, ils avaient leur quartier, ils étaient même un des éléments importants de l'économie de l'époque parce que ils passaient facilement du monde chrétien au monde musulman et ils servaient notamment de marchands entre les deux mondes, contact entre les deux mondes. Avec les croisades, c'est tout cet échafaudage fragile qui s'effondre. Et maintenant, les Juifs perdent tous leurs droits, ils vont être massacrés. Et à partir du moment où vont avoir lieu ces fameux massacres des communautés rhénanes juives, le christianisme va apparaître dans la mentalité juive jusqu'à nos jours comme le diable en personne. Pierre l'ermite, donc, est celui qui est à la tête de ces massacres, avec son lieutenant qui se nomme Gauthier sans avoir, lesquels se mettent en branle le 12 avril 1096, depuis Cologne, où ils se sont rassemblés. Nous avons vu que parmi les croisés, il y a de nombreux brigands, des gens qui vont obtenir là-bas l'indulgence et le pardon de leurs péchés. Seulement, évidemment, c'est pas ça qui fait d'eux des saints, on l'imagine bien. Et la croisade, pour eux, est l'occasion du déchaînement de leurs passions les plus basses. Comme de toute façon, ils sont assurés d'avoir l'absolution, autant en profiter. Et les croisés sèment la terreur partout où ils passent. Les principales villes qui sont l'objet des massacres, c'est essentiellement les villes de Mayence et de Worms, en Allemagne. Et dans toute cette région rhénane, qui est une plaque tournante pour les juifs à cette époque-là. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici à l'époque de l'âge d'or du judaïsme d'Europe centrale. C'est l'époque de Rachi, par exemple. C'est l'époque aussi où de nombreux chrétiens se convertissent au judaïsme. Et en Allemagne, notamment, les juifs dépendent de l'empereur ou des évêques locaux. Et la chronique de ces massacres a été gardée très soigneusement par Rabbi Eliezer et Nathan, qui vont être les chroniqueurs de ces massacres. Les premiers frappés sont les Juifs de France. Les Juifs de France ont néanmoins le temps d'avertir leur corps religionnaire d'Allemagne de ce qui se prépare pour que ces derniers essayent de se mettre un petit peu à l'abri. Et les Rhénans, les Juifs Rhénans, quand ils sont avertis de ce qui s'est passé dans l'est de la France, cherchent immédiatement la protection des évêques. Plus tard, en Terre Sainte même, les Juifs, à cause de ce qui s'est passé dans les pays rhénans, vont lutter contre les croisés aux côtés des musulmans. Et par exemple, les Juifs de Jérusalem vont combattre contre les croisés aux côtés des musulmans. En fait, les bourgeois de ces villes-là livrent les Juifs aux croisés. Par lâcheté, par intérêt, difficile de dire. Le but des croisés n'est pas le massacre des Juifs, mais leur conversion. Seulement, dans la mesure où ils refusent de se convertir, on les massacre. De nombreux Juifs parviennent à s'échapper en Orient, et dans la fameuse Guénizda du Caire, on a aussi quelques échos de ces massacres terribles qui se sont produits à cette époque-là. Ces massacres, en tout cas, comme l'avons vu, attirent la haine définitive des Juifs pour le christianisme. Les pauvres gens ont une vision eschatologique. Pour eux, nous l'avons vu, il s'agit d'aller combattre les infidèles avant la venue de l'Antichrist pour permettre le retour de Jésus. Ils se réfèrent aussi à un pseudo-pèlerinage de Charlemagne. Il y a la tradition, l'idée qui naît parmi ces gens-là, qui repose sur aucune source historique, que Charlemagne, le grand empereur, aurait lui-même été faire un pèlerinage en Terre Sainte. Et pour Pierre l'Ermite et Gautier sans savoir, la présence des musulmans à Jérusalem n'est rien d'autre que l'abomination et la désolation dont Jésus a parlé. Il faut donc purger la Terre Sainte de la présence de ces musulmans qui souillent ainsi la Terre Sainte. Et puis il y a aussi, la prédication de Pierre l'Ermite, un élément qui sera repris pour la deuxième croisade par Bernard de Clairvaux, c'est la relation entre la croisade et le jubilé. Le jubilé, vous vous souvenez, c'était l'Ancien Testament, le temps où les dettes de tout le monde étaient remises, d'où l'indulgence, justement. L'indulgence découle de l'idée vétérotestamentaire du jubilé. Et les croisés sont le nouveau peuple élu, devant lesquels Dieu marche, comme il avait marché devant son peuple, quand il était sorti d'Égypte. C'est un nouvel exode qui a lieu. Dieu va leur donner la victoire sur leurs ennemis, va leur permettre de conquérir la terre promise par une série de miracles, comme il avait fait pour son peuple autrefois. Ou alors, l'exemple d'Abraham aussi est souvent repris. Pendant ce temps-là, évidemment, les Arabes, eux, sont à son lieu de se douter de l'orage qui va leur tomber sur la tête. Les Arabes connaissent deux types de chrétiens, ceux qu'ils appellent les Rums, c'est-à-dire les Romains, c'est-à-dire les Byzantins, descendants de l'Empire romain, et ceux qu'ils appellent les Franges, c'est-à-dire les Francs, les catholiques. Bon, les catholiques avec lesquels ils ont peu de contact, si ce n'est au travers de ces mercenaires qui sont utilisés, qui sont enrôlés dans les armées byzantines. La croisade va être pour les musulmans un traumatisme terrible. Il leur faudra 50 ans pour réaliser ce qui est en train de se produire. Au début, ils pensent que ce n'est qu'un simple raid, un simple pèlerinage armé peu plus important que les autres. Et ce n'est qu'au bout de 50 ans qu'ils se rendent compte que les franges, comme ils disent, sont venus là pour s'installer et pour rester. Or, c'est une situation difficile pour eux, car d'après le Coran, un musulman ne peut pas vivre sous une domination étrangère. L'islam, ce n'est pas simplement une religion, c'est une réalité qui englobe tous les domaines de l'existence. Il y a une dimension politique obligatoire dans l'islam. L'islam doit imprégner les rouages de l'État et l'État doit devenir islamique pour que le musulman puisse y être à l'aise. D'où les républiques islamiques modernes, par exemple. Et il est écrit dans le Coran que si, pour une raison ou pour une autre, le pays des musulmans tombe sous les mains des infidèles, le devoir du fidèle, c'est de s'exiler comme avait fait le prophète quand il avait quitté la Mecque pour Médine. L'exil est une obligation. D'où les réfugiés palestiniens de 1948, par exemple. Et en 1099, lors de la conquête de Jérusalem par les croisés, il va y avoir aussi le même phénomène, un afflux de réfugiés qui va quitter la Terre Sainte. On n'en est pas encore là. Mais en Turquie, en Asie mineure, règne un jeune sultan qui se nomme Kalj Arslan, ou Arslan. Il règne sur l'Asie mineure depuis Nicée. Au moment où les pauvres gens, donc la croisade des pauvres gens, arrive à Constantinople. Il faut dire qu'il y a même des mercenaires musulmans dans les armées grecques. C'est pas très prudent, mais c'est comme ça. Évidemment, quand l'empereur Alexis Comnène voit arriver sous les murailles de Constantinople cette masse de gens totalement indisciplinés, on ne peut pas dire qu'ils sautent de joie, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que ces gens-là commencent à piller, à mettre tout à sac, donc ils ferment les portes de Constantinople et ils les obligent à camper sous les murailles de Constantinople. Et puis, il va tout de suite les occuper à des tâches militaires pour détourner leur ardeur guerrière vers d'autres horizons. Il y a une ville non loin de là qui se nomme Xénigordan et que Alexis Comnène assigne aux pauvres gens comme un des premiers objectifs dont ils aient à s'emparer. Le sultan Arslan se rend compte que là, il a affaire à une menace sérieuse. C'est quand même une armée, du moins au point de vue numérique, qui est très importante. Alors il commence par bloquer les sources d'eau, faire empoisonner les puits, et la ville de Xénigordan est donc assiégée par un des chevaliers qui, malgré tout, s'est joint à la croisade des pauvres gens, qui se nomme Renaud. Le sultan Arslan revient bride abattue contre Xénigordan, il l'assiège. Il contraint Renaud à capituler car les pauvres gens n'ont aucune expérience militaire. Et leur valeur militaire est voisine de zéro. Et le sultan offre à Renaud deux solutions. Ou bien il se convertit à l'islam, ou bien il a la tête coupée. Bon, Renaud ne peut pas dire que l'ardeur religieuse l'étouffait. Il sauve sa peau, il se convertit à l'islam. Et en même temps, il se retourne contre ses anciens camarades. Et le sultan Arslan va utiliser une ruse au moyen de Renaud. Il va entreprendre une manœuvre d'intoxication après avoir massacré les 6000 guerriers qui étaient avec lui, qui eux quand même sont refusés de se convertir à l'islam, enfin guerriers c'est beaucoup dire, les 6000 hommes qui se trouvaient dans la ville. Il envoie donc le sultan un certain nombre d'agents au camp dans lequel sont rassemblés Pierre l'Ermite et Gauthier sans avoir pour leur dire que Renaud a pris la ville de Nicée et qu'il appelle les autres pour venir au pillage. Et en fait, une embuscade leur est tendue sur la route de Nicée. Mais un certain nombre de rescapés de Xénigordan s'échappent et, heureusement, donnent à Pierre l'Ermite et à Gautier sans avoir des informations plus exactes, leur disant « Attention, c'est un piège, surtout n'y allez pas ». Mais malgré tout, la manœuvre d'Arslan a plus ou moins réussi, car la foule, horrifiée d'apprendre que 6000 des leurs ont été massacrés par le sultan, décide d'aller les venger. Et le 21 octobre 1096, la croisade des pauvres gens s'ébranle, non plus en direction de Nicée, mais en direction de Xénigordan, pour venger les martyrs. Les Turcs ont repéré les mouvements de cette armée et une embuscade lui est tendue. C'est un massacre. C'est un massacre abominable. Cette foule de gens n'a aucune expérience militaire, aucune. Ils sont tagués en pièces. 3000 hommes seulement parviendront à s'échapper sur une armée de 150 000 personnes, sur en tout cas un nombre de 150 000 personnes, femmes, enfants, vieillards et tout le monde. Hein. Tout le monde était parti. Pierre l'Ermite s'échappe par miracle et soudain le courage lui manque. Il n'a plus qu'une seule idée, c'est de sauver sa peau. Et lâchement, il abandonne ses troupes au milieu du combat. Il se réfugie dans une forteresse byzantine adossée à la mer, pendant que tous ceux qui l'ont suivi sont exterminés. Finalement, la ville est prise elle-même, et Pierre l'Ermite réussira à se sauver honteusement. Le sultan pense en avoir définitivement fini avec les franges. C'était quelque chose de son lendemain. Il a été étonné de la facilité de sa victoire. Et il n'a que mépris pour ces gens qui n'ont pas su se défendre d'une manière sérieuse. Et il retourne tranquillement à guerroyer contre ses voisins. Ses voisins turcs, ce sont ses frères, les Seljoutsides, qui se sont emparés à l'époque de l'Afghanistan, et notamment du roi Danishumend, qui a pris la ville de Matalia, qui est une ville arménienne, que Arslan lui conteste. Et alors, Arslan, après sa victoire contre les franges, met le siège contre Matalia. Et alors qu'il est le siège bat son plein, en 1097, on l'avertit qu'une autre armée frange est arrivée à Constantinople. Seulement, cette armée-là, elle est nettement plus sérieuse que la première. C'est l'armée des princes et des barons. Arslan comprend que là, il se trouve devant une forte partie et il lève le siège de Matalia pour préparer la défense de son état contre les chevaliers qui viennent d'arriver à Constantinople. Qui sont ces chevaliers? La fine fleur des barons d'Europe. Nous avons vu les principaux, Godefroy de Bouillon, Raymond de Toulouse, Bohémond et Tancrède, les Normands, mais il faut ajouter à cela Hugues de Vernandois, qui est le fils du roi de France Philippe Ier. Il y a donc le Robert de Normandie, le fils de Guillaume le Conquérant, et Étienne de Blois, sans compter ceux que nous avons cités. Le voyage et la préparation de la croisade a été soigneusement menée. Une partie des chevaliers sont arrivés par mer, à partir des flottes pisanes, vénitiennes ou génoises, sur des bateaux mixtes à la fois tirés par voile et puis par rame. Ce sont des bateaux qui transportaient à peu près 1000 hommes, sans compter les chevaux, qui étaient au milieu des hommes. Autant dire que le voyage n'était pas le confort de la première classe, hein, ça ne faut pas se faire d'illusions. Les hommes étaient entassés là-dedans, dans des conditions extrêmement difficiles. Le voyage était des plus pénibles. On le passait, il durait extrêmement longtemps. On le passait soit à jouer aux dés, aux échecs, soit à chanter des psaumes ou à prier, pour ceux qui étaient les plus motivés spirituellement. Il a fallu 42 jours depuis Marseille pour rallier Acco aux flottes génoises. Les bateaux faisaient 30 mètres de long sur 12,50 mètres de large. Alors, voyez-vous que entasser 1000 hommes plus les chevaux là-dedans, ça faisait pas un espace vital important par bonhomme. Une autre partie a voyagé à pied, dans leur boîte de fer blanc. La moyenne n'était pas terrible. Hein. On faisait de 20 à 30 km par jour. Si bien que ça a pris quand même pas mal de temps. On est passé par le Danube, la Hongrie, la plaine des Balkans, Belgrade, Andrinople et enfin Constantinople. Le premier arrivé à Constantinople était Godefroy. Godefroy, duc de Brabant, qui était lui aussi le plus motivé. Godefroy était un homme qui avait une foi qui agaçait même un peu ses compagnons. C'était un dévot qui passait son temps en dévotion diverse et qui avait été le premier à répondre à l'appel du pape, quoique avec un certain scrupule, car c'était un homme très droit, très honnête et très scrupuleux. Et il était le vassal d'Henri IV. Or, vous vous souvenez des démêlés qu'Henri IV avait eu avec le pape. Et par conséquent, Godefroy estimait que répondre à l'appel du pape était manquer de loyauté à son suzerain, l'empereur. Et il a été pris dans ce dilemme, finalement il a tranché, il a choisi pour le pape. Il s'est équipé à grands frais, il a engagé son propre château, ses terres, et c'était un voyage évidemment sans esprit de retour. Godefroy donc arrive à Constantinople. L'empereur Alexis Comnène, pas mal échaudé par les pauvres gens, ne peut pas dire non plus qu'il saute de joie en voyant arriver les croisés. Seulement, il fait contre mauvaise fortune bon cœur et il décide d'utiliser les croisés à son avantage. Et alors, il accepte de recevoir les croisés à l'intérieur de Constantinople à condition que les croisés lui prêtent serment de vassalage et que, par conséquent, il s'engage à remettre à Byzance toutes les villes qu'ils auront reconquises sur les musulmans. Godefroy hésite longuement, parce que pour lui, un serment, c'est quelque chose qui est sérieux. Finalement, il estime que c'est légitime. Et il prête le serment requis par l'empereur et s'engage à lui restituer toutes les villes qu'il reconquérait sur les musulmans. Nicée, Antioche, etc. Quelques jours plus tard, arrive la deuxième armée, conduite par Bohémond de Tarente, le Normand, qui, alors lui, est quand même quelqu'un de fort différent de Godefroy. Godefroy est un homme honnête, droit, qui a une crainte de Dieu certaine, même si sa foi est entachée de superstition. C'est un homme éminemment respectable, malgré son égarement. Bohémond, lui, c'est un arriviste. C'est vraiment la parole de Normand. Il a l'esprit des Vikings, d'Éric le Rouge et tout ça, et pour lui, la ruse, la tromperie, le parjure, c'est peu de choses. On lui demande de prêter serment, il va jurer tout ce qu'on veut. Mais quant à être fidèle à ce qu'il a promis, ça c'est autre chose. Mais ça, évidemment, l'empereur Alexis ne le sait pas. Par contre, ce qu'il sait, c'est qu'il a eu des démêlés avec les Normands, notamment dans les plaines des Balkans, en Macédoine. Puis arrive le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, qui lui refuse tout net de prêter serment. Enfin, le quatrième corps d'armée, franc, arrive à Constantinople, conduit par Hugues de Vermandois et Étienne de Blois, plus Raoul II de Flandre, qui aussi refuse de prêter serment. Donc c'est une armée internationale qui se rassemble sous les murs de Constantinople. Il y a là des gens de différentes origines, mais une majorité de Français quand même. Et c'est pourquoi les croisés prennent le nom de Francs. Le nom qui était le leur à l'époque carolingienne, puisque la croisade est quand même sous le haut patronage spirituel de Charlemagne. En mai 1097, les croisés mettent le siège devant Nicée, laquelle ville est prise après 34 jours de siège, et conformément au serment prêté par Godefroy à l'empereur Alexis, la ville est remise entre les mains des Byzantins. C'est alors que le sultan Arslan se rend compte que là, les franges auxquelles il a affaire sont d'une autre trempe que ceux qu'il a défaits quelques mois auparavant. Et lorsque le 19 juin 1097, il apprend que Nicée vient de capituler, alors il réalise que là, il faut qu'il réagisse. D'autant que un malheur ne vient jamais seul et que son beau-frère, qui s'appelle Chodka, avait constitué en 1092 un empire dans les îles de la mer Égée, un sultanat maritime autour de Smyrne, le sultanat de Smyrne. Or, en 1097, ce sultanat vole en éclats sous les coups des croisés, à peu près à la même époque où Nicée tombe. Arslan demande donc une trêve à son adversaire, Danishment, et même une alliance pour qu'ensemble ils fassent face à la menace frange qui se déploie contre eux. Et c'est alors que le sultan a une occasion unique de défaire les Francs. En effet, par ses espions, il a réussi à connaître l'itinéraire que les Francs se proposent de prendre pour envahir la Terre Sainte. C'est-à-dire, ils entendent passer par le sud-est en direction de la ville de Konya et ensuite en direction d'Antioche. C'est-à-dire qu'ils vont traverser l'Asie en diagonale, du nord-ouest au sud-est, et les musulmans ont donc une occasion de tranquillement mener une embuscade dans un défilé extrêmement difficile d'accès, qui s'appelle le défilé de Dorilé, en plein désert. Il n'y a aucune source d'eau, aucun ravitaillement, et un défilé étroit derrière lequel les troupes musulmanes se cachent. Et de fait, c'est le 1er juillet 1097, les avant-gardes de l'armée croisée s'engagent dans le défilé de Dorilé. C'est Raymond de Toulouse qui mène ce premier corps d'armée. Seulement, il y a un problème sur lequel les musulmans n'ont pas compté, savoir que, en raison des difficultés de ravitaillement, les Francs ont divisé leurs troupes en trois corps d'armée pour rendre le ravitaillement plus facile. Et lorsque Raymond de Toulouse s'engage dans le défilé de Dorilé le 1er juillet, Arslan pense qu'il a affaire au gros des troupes franques alors qu'il n'a affaire qu'à une partie seulement. L'embuscade se referme contre Raymond de Toulouse et très vite, les croisés se trouvent dans une situation difficile. Bien sûr, la masse compacte des chevaliers cuirassés résiste, mais les Arabes ont une tactique extrêmement efficace. Ils ont des corps de cavalerie légers, extrêmement mobiles, sur des chevaux très nerveux, les fameux chevaux arabes. Ils foncent sur la masse compacte des chevaliers, décochent une volée de flèches, puis font demi-tour et une autre division poursuit l'attaque. Si bien que, au bout d'un temps, pour les chevaliers, les premières charges sont facilement repoussées, mais ça finit par devenir usant. Et au bout de quelques heures de combat, les chevaliers lâchent pied. Et c'est alors que Raymond, comprenant que là, il va être écrasé, submergé par les troupes musulmanes, et c'est donc la fin de la croisade, bien évidemment, réussit à envoyer quelques éclaireurs avertir Godefroy, qui est à quelques heures de marche en arrière, qu'il est assailli dans le défilé et que s'il n'y a pas un prompt secours qui lui est envoyé, il est perdu. Les cavaliers foncent à bride abattue vers Godefroy de Bouillon, lequel, comprenant la situation, c'est un fin stratège, fonce lui-même à la tête de ses troupes, bride abattue au secours de Raymond. Et c'est ainsi qu'au moment où le sultan croit tenir la victoire, soudain débouche, à quelques heures de distance, deux armées franques. Comme disait Victor Hugo, l'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, et très vite, les musulmans ont le dessous. C'est une défaite turque. Arslan s'en fut épouvanté. La croisade est sauvée. Cette victoire va assurer deux siècles de domination latine en Orient. Le 21 août 1097, les croisés arrivent devant Antioche après une chevauchée harassante. Pardon, c'était pas Raymond de Toulouse, c'était Bohémond qui commandait le premier corps d'armée. Excusez-moi, je me suis trompé. Deux siècles d'hégémonie en Orient vont découler de cette victoire. Et quand ils arrivent à Antioche, les croisés vont soudain recevoir l'appui d'alliés tout à fait nouveaux, les Arméniens. Les Arméniens, qui sont des chrétiens d'Orient, qui voient d'un œil favorable l'arrivée de ces autres chrétiens. Tancred et Baudouin vont donc voler au secours des Arméniens, et seuls Bohémond et Godefroy vont mettre le siège devant Antioche. Seulement, Antioche, c'est un morceau à avaler. C'est une des plus puissantes places fortes de l'Orient. C'est une ville qui est adossée sur l'Oronte et en même temps qui est adossée sur des escarpements tels qu'il est impossible de l'encercler. Si elle n'est pas encerclée, ça veut dire que pratiquement le ravitaillement ne cessera jamais d'arriver. Les éventuels renforts ne cesseront jamais d'arriver. Autrement dit, Antioche est une place forte imprenable en Orient. Mais les croisés, galvanisés par leur victoire de Dorylée et en même temps soutenus par leur foi, conscients qu'ils sont le peuple élu de Dieu pour délivrer la Terre Sainte et que Dieu va au besoin faire les mêmes miracles que ceux qu'il avait fait quand il avait détruit les murailles de Jéricho, n'hésitent pas malgré tout à entreprendre le siège d'Antioche. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quand ils arriveront deux ans plus tard sous les murailles de Jérusalem, ils vont commencer par une procession autour des murailles de la ville en chantant les cantiques comme les Israélites avaient fait devant Jéricho. Mais là, le miracle ne se produira pas, les murailles ne s'effondreront pas. Donc le siège, pour l'heure on n'en est pas là, le siège d'Antioche va commencer, un siège terrible. Un siège qui va être un des épisodes les plus durs de la croisade. Et il faudra toute l'opiniâtreté des croisés soutenus par leur foi, et puis aussi la ruse de Bohémond pour venir à bout d'Antioche. Et ça, nous verrons la prochaine fois.